Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur.
Bienvenue dans ce nouveau podcast de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le podcast des profils atypiques et multipotentiels, présent sur toutes les plateformes. Donc pense à t'abonner pour ne rien rater. Et surtout, si tu l'apprécies et que tu veux le soutenir, pense à laisser 5 étoiles, surtout si tu es sur iTunes.
Retrouvez sur notre plateforme trouversavoie.fr le premier guide d'exploration à destination des profils atypiques et multipotentiels. Accessible en téléchargement gratuit dès maintenant sur trouversavoie.fr/exploration. Ce guide unique a déjà séduit plus de 100 lecteurs en quête de liberté pour assumer pleinement leur multipotentialité. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et venez enrichir votre parcours en rejoignant notre communauté dans le groupe Facebook Les Voix des Multipotentiels. Rejoignez le mouvement des explorateurs atypiques et multipotentiels dès aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon prof d'impro, Alex. Alex, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
C'est tout le plaisir pour moi. Alors, pour les personnes qui te connaissent pas, classique, première question d'introduction pour pouvoir te présenter. Mais qui es-tu ?
Eh bien, je suis Alex Putefin. Avant, j'officiais sous le nom d'Alex et sa guitare. Je faisais de la chanson humoristique. Et puis, aujourd'hui, je fais pas mal de choses. De la chanson humoristique encore. J'ai fait humoriste aussi. Je réalise des fictions. Je suis prof d'impro, prof d'écriture. Je crée des jeux. Et je suis comédien. Voilà.
C'est tout ?
C'est tout, ouais, c'est déjà pas mal.
Ah, tu m'étonnes. Ouais, moi je t'avais connu, la première fois que je t'avais vu, c'était ce spectacle de Mazout et Neutron, tu m'avais dit que t'avais fait la première partie, je crois.
Hein. Ouais, à la Verrière, ouais.
Ouais, à la Verrière au Scarabée, ouais. À l'époque où j'habitais là-bas. Et je t'avais vu aussi à l'usine à chapeau à Rambouillet, je sais plus c'était dans quel contexte, mais j'avais plutôt bien accroché ta... C'est pas pour te faire de la lèche, hein. C'est bon, c'est pas parce que t'es aussi mon prof d'impro, mais j'avais bien apprécié ton style. Pourquoi ? Parce que déjà moi, je suis pas du tout branché musique française, ouais. Les chansons à texte, encore moins, tu vois. Donc j'avais, ouais, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait bien accroché. Ouais. Et le fait que je m'inscrive à des cours d'impro et que je te vois, je le connais lui.
Ah d'accord, tu savais pas du tout au début.
Quand Jean-Claude il m'a invité. À passer à faire un petit test comme ça, un cours d'impro. Non, je savais pas du tout.
Et tu te souviens pas ce qui t'avait plu alors ?
Chez toi ? Ouais. Ou dans ton spectacle ?
Bah ouais, dans le spectacle, tu dis t'es pas chanson, t'es pas texte, alors qu'est-ce qui t'a plu ?
Ouais, je sais pas, t'avais réussi à capter mon attention. T'avais réussi à me divertir, à faire en sorte que je m'ennuie pas, quoi.
Bah, je mettais de la drogue dans tous les verres des spectateurs.
Ah bah, donc c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que je me suis réveillé deux jours après, quoi.
Ouais, c'est ça.
Moi, en fait, pourquoi je t'ai invité ? Depuis qu'on se connaît, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Moi, j'ai toujours cru que t'avais un profil multipotentiel. Alors, pour les personnes qui connaissent pas la vidéo d'Emily Wapnick qu'elle a fait pour le TEDx, je vous invite à la regarder. Moi, je l'ai montré à Alex, juste là, il y a même pas 10 minutes, pour lui présenter qu'est-ce que c'était le profil multipotentiel. Toi, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à ça ?
Oui, clairement, je me suis reconnu dans le profil. Les qualités, effectivement, les qualités qu'elle voue au multipotentiel, je trouve que ça me concerne aussi. Et oui, clairement, ça me pose question, en fait. Et ça fait du bien parce que c'est vrai que je suis en plein justement encore en train de me dire mais attends, il faut choisir, il faut que tu te spécialises parce que si tu fais c'est vrai qu'en France si tu fais tout tu fais plein de choses en fait, ça veut dire que tu fais tout à moitié quoi et que tu fais pas bien. Alors que c'est pas vrai, je pense que je suis assez talentueux dans pas mal de domaines mais faut faire avec ça, faut quand même réussir à faire sa place avec cette particularité. Faut arriver rien quand on me demande ce que tu fais comme métier, là tu m'as demandé de me présenter, j'ai un peu honte de dire que je suis tout ça à la fois parce qu'on se dit le mec il peut pas savoir tout bien faire donc c'est forcément qu'il... C'est comme si tu disais je suis cuisinier, coureur de marathon et en même temps pilote d'avion quoi. Tu dis le mec et je montrais pas dans son avion, quoi. Tu vois, donc ouais, c'est un peu compliqué et en même temps, elle donne une réponse qui est intéressante, c'est le croisement des activités, quoi. Essayer de réfléchir à, ok, tu fais plusieurs choses, et ben, est-ce qu'il n'y a pas une chose à faire qui est l'intersection de toutes ces activités et qui peut vraiment amener quelque chose d'original et trouver une place, en fait, pour toi en tant qu'activité, quoi.
T'as eu l'impression de pas trouver ta place pendant toutes ces années auparavant?
Disons que je me suis pas trop posé la question. J'ai toujours fait un peu à l'instinct et j'avoue que c'est assez récent de me poser la question, en fait. Avant, je faisais et puis voilà, quoi. Je me débrouillais. Et là, c'est l'approche de la quarantaine. Tu te dis bon, ben là, qu'est-ce que je suis, quoi, dans la vie, tu vois. Et puis même, ouais, c'est par rapport au regard des autres. Hein. Quand les gens me demandent, j'en suis à me dire bon, allez, j'occulte des trucs pour qu'ils comprennent mieux ce que je suis, parce que sinon ils vont se dire mais c'est pas normal, quoi. Déjà, en plus, tu leur dis je suis ci, et puis les mecs te disent ouais, mais non, mais en vrai métier, t'as quoi? Donc déjà j'ai des métiers où on te dit mais en vrai métier t'as quoi, et en plus j'en ai plein, donc c'est n'importe quoi. Voilà, mais après quand tu leur expliques ils comprennent, mais ça prend 20 minutes, quoi.
Ouais.
Mais alors qu'est-ce qui te fait manger? Mais alors qu'est-ce qui, parce qu'il y a les métiers qui me font manger, d'autres qui sont plus passion, et des fois ça s'alterne. Il y a des périodes où mes spectacles me ramènent des sous, et d'autres quand je suis plus en création, bah les spectacles non, ça me ramène pas des sous, donc je suis en création, donc c'est compliqué, quoi.
Ouais, mais t'es en création, et justement, c'est le processus de créativité qui permet de faire du lien entre toutes tes activités.
Ouais, c'est sûr.
Donc, t'as le processus de créativité qui dit forcément que t'as des compétences qui sont liées, qui gravitent autour de la créativité.
Ouais, ben c'est ça qu'elle disait dans la vidéo, et là où je me retrouve, c'est que finalement je fais énormément de ponts entre mes activités. Et ce que j'apprends dans un domaine, je peux l'appliquer dans l'autre domaine, etc. Et c'est d'autant plus riche, quoi. C'est clair.
T'as forcément des compétences transverses dans beaucoup de choses, toi. Tout à l'heure, tiens, quand tu me disais, ouais, tiens, je monterais pas dans l'avion de tel type alors qu'il a il est fleuriste ou il est un autre truc. Bah, regarde le chanteur de Iron Maiden, Bruce Dickinson.
Ouais,
c'est lui qui pilote ses propres avions, hein.
Ah ouais?
C'est lui, d'accord, qui pilote ses propres avions. Le mec, il chante. Et Iron Maiden, quand même, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de heavy metal depuis les années 70, ouais, début 70. Bon, Bruce Dickinson, il est là depuis les années 80, il est parti, il est revenu. Mais c'est quand même un mec qui, en plus, il est super bon au foot, je crois. C'est Steve Harris, je sais plus. Et il projette aussi, il a un autre projet, je crois, c'est mon frère qui m'en a parlé, je crois qu'il est en train de lancer une école de, je crois, peut-être une école de pilotage, j'en sais rien. Mais tu vois, comme quoi, t'as quand même certaines multi-compétences.
Ouais, ouais, non, mais c'est la société qui nous fout ça.
Après,
dans la tête.
Après, ils sont anglo-saxons. Après, je pense que je sais pas, hein, comment ça se passe dans la culture
anglo-saxonne. Je trouve qu'aux États-Unis, honnêtement, en tant qu'artiste, moi, pour avoir un petit aperçu, aux États-Unis, on est très, showman, un comédien aux États-Unis, s'il sait danser, chanter, jouer la comédie, ouais, c'est cool. Mmh. En France, c'est pas la même chose. En France, il y a plus de cases, tu fais quoi, et tu peux pas faire, si tu sais chanter, danser, jouer la comédie, c'est déjà plus, ouais, on a des doutes, quoi. On se dit, ah bon, il sait vraiment bien faire les trois. Donc, c'est un peu différent, quoi. Mais peut-être que c'est en train d'évoluer quand même, quoi.
Ouais, c'est quand même en train d'évoluer. Tu vois, on parlait tout à l'heure, juste avant de commencer, du terme slasher.
Ouais.
Il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre l'idée que tu puisses à la fois choisir plusieurs métiers, comme ce que tu as dit, hein. Tu as un métier passion, tu as un métier, on va dire, un job alimentaire qui te permet de faire du lien entre ton métier passion et puisque là où tu as vraiment envie de te positionner. Mais ouais, ça change de plus en plus et il y a pas mal de mentalités qui sont en train d'évoluer là-dessus. Après, on va voir sur le long terme, parce que ça peut être aussi un mouvement, comme ça peut être juste une petite mode, quoi.
Ouais.
Alors que c'est vraiment un style de vie à proprement parler, quoi.
Ouais.
Et qui, je pense, en plus de ça, qui correspond plus à notre génération, enfin, en tout cas, qu'on verra de plus en plus dans notre génération et la génération à venir. Tu vois, j'ai pas envie de dire qu'on est des précurseurs, mais peut-être que à venir, t'auras plus des types qui te poseront la question, mais sinon, c'est quoi ton vrai métier, quoi.
Ouais, peut-être.
Enfin, j'espère, en tout cas.
Ouais. Après, ce qui est difficile, c'est aussi de faire la part des choses avec ce que toi t'aimes vraiment. C'est-à-dire que oui, il y a, oui, je pense qu'il faut pas se spécialiser à tout prix et quand même réussir à s'écouter si on a envie de faire plusieurs choses. Mais aussi, moi, des fois, je fais des choses et je me dis après coup, pourquoi j'ai fait ça en fait. Cette curiosité que j'ai, et on en parlait de aussi la peur de s'ennuyer, me fait faire des fois des choses que en fait. Je ferais pas forcément et du coup maintenant j'essaye vraiment de me poser la question est-ce que t'as vraiment envie de faire ça quoi sinon je pars dans 10 000 projets et au final je suis dedans et je fais putain pourquoi je me suis encore relancé dans ça alors que je sais très bien que je, au final j'aime pas ça tu vois ouais ça m'est arrivé par exemple les murders là j'ai créé des jeux en entreprise les murder party et ben la première la création ça a été très compliqué. Même si aujourd'hui j'en suis fier et que ça marche bien et tout ça, ben là je me suis dit jamais je referais ça. Et ben on m'a reproposé d'en faire une deuxième, j'ai fait la deuxième quoi. Et en milieu j'ai fait mais ah faut que j'arrête. Je sais que ça me stresse, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît à faire et tout, mais c'est la curiosité et aussi je sais que j'ai les capacités de le faire. Donc mais ça c'est aussi terrible, c'est on nous demande tiens qu'est-ce que tu pourrais faire. Et pas ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que la plupart des gens, tu leur dis, l'orientation est basée sur tes compétences, plus que sur ton envie et ton plaisir, en fait. Alors que non, tant pis si je suis compétent pour un truc et que je préfère faire un autre truc, moi je me dis, il faut quand même faire l'autre truc, quoi. Bon, après, il y a la réalité financière qui va derrière, mais si tu peux t'en sortir à peu près avec la chose que t'aimes faire le plus, faut pas forcément aller derrière faire le truc que pour lequel t'es bon, en fait. C'est-à-dire que la plupart de temps, on dit, t'es bon dans quoi? C'est pour faire ton orientation.
Ouais.
Tu vois? Même au lycée, on dit, t'es bon en maths, t'es bon en machin. Rien que moi, je trouve que le truc le plus aberrant au lycée, c'est, t'es bon. Ok, faut que tu fasses une école d'ingénieur. Avec l'école d'ingénieur, tu pourras tout faire. C'est complètement faux. Ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est, franchement, si tu fais une école d'ingénieur, tu pourras pas faire, peintre ou tu pourras pas faire,
Après, on peut pas en demander trop aux profs parce qu'ils sont, profs, ils sont pas conseillers d'orientation.
Et combien, ouais, mais même les conseillers d'orientation, prof, même les conseillers d'orientation.
Même, c'est sûr que même les conseillers d'orientation, bon, après, il y a toujours le cliché du conseiller d'orientation qu'on a eu, nous, dans les années 80, 90.
Ouais, peut-être.
Moi, si j'avais écouté ma conseillère d'orientation, je me serais lancé dans un truc BEP fromage de chèvre, un truc dans ce style-là, tu vois.
Et peut-être tu aurais kiffé. Bah, peut-être que BEP fromage de chèvre, c'est peut-être mieux que programmeur, en C++, je sais pas, hein, tu vois, chacun son truc
ouais,
et
chacun
son
truc. Mais comme tu disais, la notion de plaisir, en fait, elle est super importante, à la fois, bah, je pense encore plus pour une personne qui a un profil multipotentiel, parce que comme on en parlait, bah, l'ennui, c'est quelque chose qu'on évite absolument, c'est une frustration qu'on n'a pas envie de retrouver dans la vie professionnelle. Et pourquoi je te parle de ça? Pourquoi? Parce que la notion de plaisir, c'est ça qui te permet de savoir si, en fait, tu changes complètement ta perception des choses et ton approche dans ton processus de décision. C'est-à-dire que tu vas pas faire des choix en fonction de tes compétences que tu maîtrises. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clients et ça change toute la donne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a parfois des clients qui vont me dire, bon, bah, voilà, je sais que je suis bon en gestion de projet ou je suis bon en ci, en ça. Donc, je vais me positionner sur des activités de ce style-là. Et quand je leur pose la question, mais est-ce que tu prends plaisir à faire ça? Ouais, non, je suis juste bon. Mais ouais, mais tu vois, il y a toute la différence. Moi aussi, à l'époque où je me suis lancé, tu vois, en 2013-2014, bah, je me suis quand même posé la question de est-ce que je vais jusqu'au bout de mon projet? Et puis, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc, je dois faire avec l'incertain. Ou est-ce que, bah, je me retrouve à un poste de consultant ou de responsable RH parce que je maîtrise superbement bien Excel. Tu vois, mais faire des tableurs Excel, tableaux croisés dynamiques toute la journée. Pff, merci, ouais. Et ça, je le maîtrise. Mais c'est comme tu dis, ouais, c'est important que tu puisses prendre en compte le fait que t'as un projet sur lequel tu sens que tu vas t'éclater et qu'il va falloir que tu développes certaines compétences et connaissances, et peut-être trimer un petit peu, d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, je te pose la question, est-ce que toi, t'as trimé justement pour en arriver là, entre le moment où tu t'es dit, tiens, bah, j'ai envie de me lancer dans la comédie ou la création musicale ou tout ça, et puis aujourd'hui?
Bah, trimer, ce serait pas le bon terme, parce que, ouais, trimer, pour moi, c'est, tu vas à l'usine et tu en chies. Alors, il y a eu des difficultés, mais les difficultés, ça a plus été de pas avoir la reconnaissance que j'attendais, en fait. tu vois, aussi bien professionnel que public, d'ailleurs même plus professionnel pendant un temps. Mais c'est juste ça en fait. Et c'est là où je me resitue et je me réaxe en me disant mais en fait du moment que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, c'est ça pour moi l'ultime but, c'est de pas attendre la reconnaissance quoi. C'est-à-dire que déjà si tu prends du plaisir, tu t'en fiches que derrière il y a un écho ou pas. Alors après encore une fois il y a le problème financier et le problème bien sûr il faut qu'il y ait un écho, sinon t'as pas de clients entre guillemets, même si dans l'artistique on parle pas de clients, mais si t'as pas de rentrée d'argent ça peut poser problème, ou alors il faut avoir un métier passion et un métier plus alimentaire. Mais voilà, du coup c'est cette notion de plaisir, pour moi c'est important et c'est assez nouveau. C'est-à-dire que maintenant je m'écoute vraiment, et c'est pour ça que mon dernier spectacle s'appelle Envie. C'est que en mode je vais sur scène et je réalise mes envies, et je fais attention à pas me mouler aux envies des autres ou à ce que les gens me disent. Ah, ça serait bien si tu faisais ça, etc. C'est très compliqué, hein. Même là, encore quelques fois, je me suis laissé piéger. Je me suis dit, ah mais je vais quand même aller sur scène et je vais demander aux gens, alors c'est quoi vos envies aujourd'hui? Ben non mec, t'es en train de faire un spectacle, c'est envie, c'est parce que tu dois être à l'écoute de toi. Et on a toujours tendance à vouloir plaire, donc on écoute les autres et on se moule en fonction de ce que pensent les autres, quoi. Et c'est compliqué.
Et ça t'a impacté, toi, dans ton parcours ?
Ouais, ça m'a impacté. Ben oui, parce que c'est ça. Pendant un moment, j'ai commencé à faire. Si tu veux, je suis assez tête brûlée. Et du coup, j'ai à un moment donné, j'ai beaucoup donné pour réussir entre guillemets, pour devenir, pour avoir plus de popularité, etc. Donc, je me suis mis à fond et je me suis épuisé en fait. C'est-à-dire que pour moi, je ne me suis plus écouté. J'en ai fait trop. J'en attendais trop, et du coup il y a un moment donné où t'arrives à saturation et tu te dis oh, j'en peux plus là, et puis personne, il y a pas de valorisation, puis en plus t'as le nez sur ton projet, donc toi t'as l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait si tu regardes sur les 2-3 ans qui se sont passés, en fait il s'est passé plein de choses. Mais quand t'es trop la tête dans le guidon, t'as l'impression qu'il se passe rien, tu voudrais que toutes les semaines ou tous les jours il se passe quelque chose, qu'il y a un truc de fou qui te tombe sur la gueule, et ça c'est un peu le problème quoi. Donc pour moi faut vraiment être dans le plaisir et faut avoir un rythme de croisière. Ce que tu fais là, est-ce que tu serais capable de le faire pendant 5 ans, 10 ans? Bien sûr, tu peux changer de stratégie ou d'activité, mais en tout cas, faut prévoir. C'est comme le sport, quoi. Si tu te mets à fond et tu dis « Ah, je fais 3 heures de sport par jour !» et tu tiens 5 jours, ben ça aura aucun intérêt. Alors que si tu dis « Ah, je fais 20 minutes par jour ou 20 minutes 3 fois dans la semaine » et que tu tiens et que tu prends du plaisir à ça, et ben pour moi... Comme en plus dans ces métiers, alors là moi je parle des métiers artistiques parce que je connais un peu plus, enfin c'est plus mon domaine, mais il y a un facteur chance qui est indéniable dans le milieu artistique, et pour moi la meilleure façon d'optimiser ce facteur chance, c'est d'être présent au maximum. Donc pour moi c'est là, c'est être présent longtemps, c'est la longévité qui va faire le truc quoi. Donc si tu te mets à fond pendant 3 mois et qu'au bout de 3 mois t'arrêtes et tu fais plus rien pendant 2 ans, c'est contre-productif quoi. Donc pour moi c'est trouver un rythme de croisière et trouver le plaisir dans ce qu'on fait. Ce qui est pas forcément évident, parce que à chaque fois tu dis, faut pas chercher ce qui marche. C'est ça qui est compliqué. Et d'ailleurs, les gens te ramènent toujours à cette question. Alors, ça marche? Ça va? Est-ce que ça marche, toi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? Est-ce que c'est, je prends du plaisir à ce que je fais? Est-ce que je vis à peu près correctement de ce que je fais? Est-ce que c'est, on me voit à la télé? Est-ce que, tu vois, il y a tellement de trucs. Alors, je leur dis, c'est quoi pour toi, ça marche? Et souvent, ils réaxent en disant, ben, tu fais ce que t'aimes, t'envies. Ok, dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais est-ce que tu me vois à la télé? Ben, tu sais mieux que moi. Est-ce que tu m'as vu à la télé ou pas? Non. Bon, ben voilà. Ça marche pas dans ce cas-là. Tu vois, et c'est, pour moi, c'est le plus important. Il y a des gens, ils sont à la télé, ils font, je sais pas, 10 000 trucs, et puis ils sont pas heureux pour autant. Donc, pour moi, le ça marche, c'est vraiment, est-ce que je suis en adéquation avec ce que je veux faire? Est-ce que je prends du plaisir dans le chemin et pas dans le résultat? Le fait de faire, est-ce que je prends du plaisir et pas dans le résultat? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah je suis fier, j'ai fait ça, mais que ça te sert à quoi d'être fier d'un truc si pendant que tu le fais tu trimes justement comme tu dis, et tu dis ah mais là je serais content, il y aura un bon truc au final. Je veux dire, par exemple, moi je fais des chansons, bah je les écoute pas mes chansons, je suis pas là à me kiffer dans ma voiture en disant waouh, ouais, j'écoute tous mes albums. Non,
et je fais des vidéos, des podcasts, je m'écoute
tu les regardes plus, pas ouais. Donc si t'as pas pris de plaisir en les faisant, quel intérêt d'être sur le résultat en disant putain
c'est vrai.
Donc ouais, ça c'est très important, mais et ça je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça en fait.
Ah, tu vois, moi je viens de le comprendre.
Donc c'est la logique chemin versus résultat, quoi. Pour moi, c'est le plus important, le chemin. Comme le bonheur, en fait. Le bonheur, on a l'impression que c'est, putain, j'aimerais être heureux. On a l'impression que ça va être une arrivée. Alors que non, le chemin, c'est, le bonheur, c'est un chemin. C'est-à-dire que notre vie, c'est un chemin. Et bah, le bonheur, c'est d'essayer de faire que ce chemin soit le plus agréable possible. Mais t'empêchera pas de tomber dans un trou de temps en temps, quoi. C'est pas possible. Mais voilà, t'essayes d'optimiser. Donc ceux qui sont en quête du bonheur, c'est une quête un peu inatteignable, en fait. On essaie simplement de... Et j'ai lu un livre hier qui était génial, où la nana, elle disait que nos émotions, c'était les buissons sur le côté du chemin. C'est-à-dire que quand tu piques sur les buissons, genre t'es en colère ou t'es triste ou machin, ça veut dire qu'en fait, t'es pas bien aligné, que t'es pas, il y a des besoins qui sont pas comblés, et faut que ça te ramène dans le chemin, en fait. Tu vois, et du coup, les émotions sont pas des choses négatives, sont plus des espèces de GPS qui te ramènent dans la bonne route en te disant, bah, si t'es en colère à chaque fois que tu fais telle activité, bah, arrête ou trouve une solution pour régler ta colère et combler le besoin qui n'est pas nourri, quoi.
Et t'estimes que, bah, justement, en parlant de besoin, est-ce que t'estimes que l'ennui a, ou l'évitement de l'ennui, ou même la recherche de plaisir, a beaucoup influé, ou t'a beaucoup influencé dans tes choix auparavant?
Inconsciemment, ouais. Ouais, carrément. Bah oui, oui, déjà tout petit. C'est marrant parce que quand ma mère me parle de moi petit, elle me dit, ouais, tu me demandais toujours un truc. T'as pas un rouleau de PQ, pour fabriquer des trucs. T'as pas une corde, t'as pas un tissu, t'as pas un machin. T'étais tout le temps à me demander un truc pour fabriquer un bordel, quoi. J'étais assez actif, quoi. Et même les vidéos, hein, j'en faisais déjà. Mon père, il a un caméscope. Je l'ai plus utilisé que lui, quoi. Lui, il l'utilisait pour filmer les vacances, normal. Moi, tous les week-ends, c'était allez pote, venez à la maison, on fait des vidéos, quoi. Et j'explorais le truc de 10 000 façons. Je faisais du stop motion, je faisais les vidéos où tu te mets derrière dans l'arrière-plan et comme ça on a l'impression que t'es tout petit à l'image. Enfin, je testais tout ce qui était possible de faire. Mais cet ennui, moi je suis fils unique en plus aussi, donc il y a cette peur de l'ennui et d'aimer aussi être avec les autres, quoi.
Il y a un truc que je retrouve énormément et que tu vois. Tu parlais d'explorer et explorer, c'est aussi un besoin qu'on retrouve beaucoup dans le profil de multipotentiel. Tu vois, là, c'était quand c'est hier ou avant-hier, j'ai posé les questions dans mon groupe Facebook des multipotentiels. Je leur ai fait une liste de plusieurs besoins et je voulais savoir, en fait, dans lequel ils se retrouvaient le plus.
Ouais.
Et le besoin qui est, on va dire, vraiment unanime pour beaucoup de personnes, je crois qu'il y a 55 personnes qui ont voté pour celui-là. C'est le besoin d'explorer et qui est lié à l'apprentissage, qui est lié au fait de découvrir de nouvelles choses, qui est lié aussi au besoin de nouveautés.
Ouais.
Et je sais plus avec qui j'en parlais une fois, mais elle m'avait dit, cette personne-là, que l'exploration, c'est très lié aussi avec l'enfance. Parce que quand t'es enfant, t'es souvent dans l'exploration, la découverte, l'apprentissage. Donc est-ce que tu penses que de ce que t'as compris du profil multipotentiel et par rapport à toi, et peut-être aussi par rapport à moi et pourquoi on fait de l'impro, est-ce que tu penses que on a conservé cet aspect, ce côté enfant qu'on a conservé en fait en toutes ces années d'adulte?
Ben ouais, je pense. Après, dans l'apprentissage, c'est clair que je me reconnais vachement là-dedans. J'adore encore prendre des cours et tout ça. Je fais des stages d'impro, des stages de clown. Voilà, j'essaie d'explorer. Dès que je tombe sur un truc qui m'intéresse, je lis plein de bouquins. C'est vrai que il y a ce côté-là. Après, moi, c'est clair que je me considère un peu comme un grand enfant, mais plus sur l'aspect jeu, en fait. J'adore jouer, en fait. Que...
Bah, l'exploration, c'est un peu le
ouais,
jeu, quoi, d'une certaine façon.
Ouais. Peut-être. Et c'est vrai que là, récemment, je me suis dit, si je devais faire qu'un seul métier, ça serait quoi? Et ben, je pense que le métier de réalisateur, ça me correspondrait bien parce que t'explores à chaque fois quelque chose de nouveau dans chaque film, quoi.
Ouais.
Tu fais un nouveau film, ça sera jamais la même expérience, en fait. Donc oui, je pense clairement il y a le côté enfance qui est là. Même moi, quand j'étais enfant, enfin c'était je m'ennuie. Bah c'est ça, je m'ennuie. T'as pas ceci, t'as pas cela, t'as pas un rouleau de PQ. c'est vrai, je passais mon temps. J'avais peur de m'ennuyer déjà tout petit. Hein. Et donc, ouais, je pouvais explorer 10 000
trucs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis barré du salariat, quoi. parce que j'avais peur de. En fait, tu vois, j'étais dans un, je faisais un poste de consultant. Donc, pour moi, le consulting, ça m'allait parce qu'il y avait la diversité des projets, des activités, des compétences, etc. Mmh. Mais clairement, tu vois, le fait d'être ligoté à un cahier des charges, on dit bon bah tu fais ça et pas autrement, etc. Moi, ça me frustrait intellectuellement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis barré, parce que je me disais attends, bon, déjà je fais un burn-out à 30 ans. Et si en plus de ça, bah en fait, ouais, je me faisais chier, quoi, tout simplement, hein, disons-le clairement. Hein. Je m'ennuyais très rapidement parce que soit les tâches bah, m'apportaient pas grand-chose, et finalement, tu vois, en quoi ? Allez, peut-être en la première année de mon projet, j'ai appris carrément plus qu'en 3-4 ans de consulting. Hmm. Donc j'étais constamment dans l'apprentissage de nouvelles choses et l'expérimentation, et là, je pouvais faire et, bah, tout ce que j'avais envie de faire. Ouais. Hmm. Donc la, l'ennui, ouais, c'est, je pense que ça fait partie des choses qui influent énormément dans nos choix d'orientation, de carrière, de choix personnel aussi. C'est sûr que même, même aussi avec ma partenaire, je me verrais pas avec une personne chiante à mourir. Et pourtant, j'en ai rencontré des personnes chiantes à mourir.
Mmh. Ouais, moi, c'est un de mes critères aussi. C'est, j'ai besoin de rencontrer des partenaires qui me stimulent. Alors les gens rigolent à chaque fois que je dis ça, ils pensent au côté sexuel.
J'étais en train de boire un coup, mais ouais, t'as fait une.
Non, c'est pas du tout. Non, mais stimule qui me, ouais, qui me renvoie à la balle, qui me surprenne, qui non, me.
Intellectuellement, ouais.
Et qui m'emmène dans des trucs où je j'irais pas forcément, tu vois, qui soit source de propositions aussi, quoi. Ouais, parce que j'adore découvrir, j'adore faire plein de choses. Ouais, c'est clair.
Et le. Alors, est-ce qu'on peut parler de métier de réalisateur ou plutôt d'activité de réalisateur? Ça, ce type de projet sur lequel t'as envie de te positionner aujourd'hui.
Ouais.
Toi, t'en es où là actuellement?
Et ben là, j'ai réalisé 6 courts métrages là depuis 2 ans à peu près. Et donc bon, c'est un métier pour faire son trou, c'est pas évident. Donc je me pose encore la question. Là, pour l'instant, la stratégie, c'est de faire des courts métrages, de réaliser des courts métrages, de jouer dedans et de les inscrire au festival. J'ai un de mes courts-métrages qui a été pris dans 4-5 festivals, j'ai gagné un prix de l'humour là avec un des courts-métrages. Voilà, après qu'il soit passé en festival, je vais les mettre sur internet aussi. Donc voilà, c'est ça un petit peu le, enfin j'espère que le circuit des festivals, ça peut ouvrir des portes. En tout cas, quand j'y étais, on peut rencontrer des producteurs, on peut rencontrer d'autres acteurs du milieu, etc. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu le réseau et voilà quoi, de se faire connaître. Voilà.
Mais t'as quand même des compétences que t'as développées auparavant et que tu peux, parce que, enfin là où je veux en venir, c'est que ce métier de réalisateur. C'est ouais. Grâce à tout ce que tu as déjà fait auparavant que tu peux te permettre aujourd'hui de te positionner sur ce métier-là.
Bah déjà de base, j'ai fait une étude d'audiovisuel.
Ouais.
Donc j'ai appris déjà tout l'aspect technique, on va dire caméra, lumière, montage, tout ça, le son, etc. Et puis après, je dirais que c'est toutes les expériences que j'ai pu avoir dans la comédie, dans le quand tu fais un spectacle, tu racontes des histoires, donc il y a la narration. Je me suis toujours intéressé aussi au scénario, la musique, le fait que j'écrive mes musiques, pareil, ça donne une sensibilité particulière à l'utilisation de la musique dans un film. Mais être prof d'impro, même être prof d'impro, en fait, tu diriges les acteurs, même si c'est des élèves, t'es dans la direction d'acteurs un petit peu quand même. Donc c'est vrai que toutes ces activités que j'ai pu faire peuvent être complémentaires dans ce métier-là. Et c'est pour ça que je me dis, mais finalement, c'est peut-être là que j'ai ma carte à jouer, déjà parce que ça va me faire plaisir, parce que je changerai toujours. Quand tu fais un film, ce qui est génial, c'est qu'il y a la phase d'écriture, c'est complètement différent de la phase de tournage, et c'est complètement différent de la phase de montage, et après tu fais la musique avec le mec qui fait la musique, enfin, ça varie énormément d'ambiance à chaque étape du film, et ça c'est cool quoi. Moi j'aime autant la phase tournage qui est imprévisible. Alors des fois il y a des couilles monumentales sur le tournage, c'est un peu compliqué à gérer, faut apprendre à gérer son stress, à gérer une équipe, et aussi à accepter les erreurs quoi. Des fois il t'arrive une merde et ben tu te dis finalement ça va changer mon scénario et c'est peut-être pas plus mal. Voilà, l'autre fois on s'est fait virer du lieu de tournage, on était dans un parc, on n'avait pas le droit de tourner, et on a réécrit le scénario pour faire une scène à côté sur un banc, et finalement c'était mieux comme ça, ça faisait une ellipse et c'était super quoi. Donc faut voilà, et puis par exemple l'impro m'apprend ça. L'impro c'est quoi? C'est accepter les imprévus. C'est de toute façon tu n'arriveras jamais à tout maîtriser dans une impro, bien au contraire.
Ouais,
l'impro c'est la définition de l'impro, c'est composer avec l'imprévu. Donc ça, si c'est pas une super école pour un tournage où une fois sur deux il pleut alors que tu as pas prévu, tu veux faire une prise de son, il y a un chien qui aboie à 2 mètres. Enfin donc en fait là voilà comment on peut faire quoi. Bah tiens, si on intégrait carrément le chien dans le dialogue quoi. Non mais il y a un moment donné quand t'as un tournage t'as pas le choix. Voilà, il y a des même quand t'as du budget, hein, il y a des coûts de production qui fait que non, on pourra pas tourner demain, faut tourner aujourd'hui quoi. Donc faut trouver une astuce. Et ben le milieu d'impro ouais peut t'apprendre ça aussi quoi. Donc effectivement, comme elle disait, encore une fois, le croisement des compétences peut être un superbe atout pour les multipotentiels, je pense. Se dire tiens, ma pote, par exemple, une pote qui m'a parlé des slashers, elle fait du marketing et de l'improvisation. Et a priori rien à voir, tu vois. Et pourtant, elle a trouvé justement des gens qui étaient intéressés pour lui faire un team building ludique théâtral, mais sur le marketing parce que c'était leur point faible et ils voulaient travailler ça. Donc en fait, quand tu croises les domaines d'activité, tu peux arriver à un phénomène de niche où finalement tu seras peut-être le seul à être un tel slash un tel. Tu vois, si t'es, je sais pas, cuistot, pilote d'avion, ben il y a un mec qui veut, je sais pas, il aime bien manger quand il se déplace. Je dis n'importe quoi, c'est un mauvais exemple, mais en tout cas, peut-être que du coup, t'auras moins de concurrence. T'auras moins de concurrence que si tu fais juste pilote d'avion. Voilà, il y a 10 000 pilotes d'avion et c'est ce que je me disais même les chansons, comme je te disais. Je me suis dit, tiens, je devrais être réalisateur. Et là, c'est ce que je me suis dit quand tu m'as montré la vidéo. Je me suis dit, mais en fait, dans mes films, il devrait y avoir quasiment tout ce qui fait ma personnalité. Et là, je me rends compte que mes films actuellement, non, c'est des films un peu normaux, comme pourraient faire d'autres personnes. Mais je me dis, mais non, mais s'il y avait un peu de chanson, s'il y avait un peu d'impro, s'il y avait moi qui, quand je fais le con, là, devant la caméra ou en soirée, il faut que j'arrive à mettre cet ADN dans mes films. Et là de me dire ah bah ouais là il y aura une vraie différence et les gens se diront oh, c'est quoi cet ovni quoi, c'est chambé quoi.
C'est là où tu vois là, que il y a toujours une petite pudeur, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais de l'impro hein, comme tu disais, ouais, c'est important de lâcher prise, que tu t'acceptes que tu vas pas tout contrôler. Et moi je me rendais compte que j'étais vachement dans le contrôle et encore un peu aujourd'hui, tu vois, j'ai parfois du mal à sortir de l'idée qu'il faille absolument faire rire les gens alors qu'en fait tu fais rire malgré toi quoi.
Ouais.
Chaque fois que vous vous êtes foutu de ma gueule, ouais, c'était parce que j'avais fait un truc que j'avais pas du tout contrôlé. Mais qu'il y a toujours une pudeur dans ton projet, un truc derrière lequel tu vas te cacher. Ouais, les podcasts c'est bien parce que d'une certaine manière tu vois je suis en mode lâcher prise.
Ouais.
Je fais vraiment je libère la parole et je suis pas comme dans mes vidéos où il faut que ça aille vite, où il faut que ça soit pragmatique, pertinent et efficace en 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc là tu vois c'est un format où tu peux te permettre d'être un petit peu plus toi-même et d'être un petit peu plus dans le lâcher prise et surtout d'être cohérent avec toi-même. Mais quand on parlait, tu vois, de la culture anglo-saxonne,
ouais.
Quand je suis parti à Londres pour la première fois de ma life, je me suis rendu compte qu'en fait, que les Anglais, ils étaient, même si c'est une capitale, ils étaient vachement dans l'interaction ou dans l'ouverture aux autres. Mmh. Là où on est très dans la méfiance, on se méfie de tout le monde. Tu vas à Paris, c'est pas non plus la capitale de la bonne humeur ou des interactions sociales, quoi. Tu peux rester là toute la journée à la bouche fermée. Voilà, ça arrive souvent. Et je me suis rendu compte, en fait, que t'as juste à voir aussi la télé en Angleterre et la télé en France. Les Anglais, ils sont vachement dans le lâcher-prise, ils sont vachement dans l'unicité et la mise en avant de ta personnalité. Quoi. Quand tu regardes... tu connais cette émission qui s'appelle Top Gear ?
Non.
Non, tu connais pas ? Bon, c'est une émission de bagnole, c'est l'équivalent du turbo,
ouais.
Qui date des années 80-90 en Angleterre, et ils en ont fait une adaptation en France, parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, il y avait l'adaptation anglaise qui était vachement suivie en France. Et ces trois mecs qui ont leur propre personnalité, mais ça plaît. En fait, même si moi je suis pas un fan de bagnole, ouais. J'aimais bien regarder leur émission parce que c'était divertissant. Genre les mecs qui faisaient du foot avec des bagnoles de stop-car, tu vois.
Ouais.
Où ils inventaient des trucs complètement barrés et c'était assez marrant à regarder. Et quand j'étais en Angleterre, je me suis dit mais en fait j'ai un peu l'impression que nous on est toujours un peu sur la retenue ou la pudeur.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a toujours l'impression que d'avouer un petit peu ses failles, ça va nous rendre un peu loser, ou alors qu'au contraire, c'est ce qui va toucher les gens, quoi. C'est comme quand t'es dans la séduction, je trouve. Dans la séduction, t'essayes d'être le mec bien sous tout rapport, et en fait, tu te lisses en faisant ça. Tu deviens le mec plat. Alors que si tu t'es honnête et que tu restes sincère, bah, je pense que t'es beaucoup plus charmant que si t'essayes d'être le mec, tu vois, de faire semblant d'être le mec qui a aucune faille, etc. T'es un big gym, quoi. C'est peut-être un peu dépassé comme t'es Ken, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est dur d'accepter de se livrer, etc. Mais il y a quand même, la part de la vie privée, etc. C'est compliqué, ouais.
Mmh. Là, donc, t'es parti pour te positionner sur le projet de métier de réalisateur.
Ouais, en tout cas d'essayer, pas laisser tomber tout le reste, mais oui, en tout cas, je me rends compte que c'est ce qui me plairait beaucoup. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est un métier de groupe, hein. Tu peux pas être un réalisateur comme ça tout seul dans ton coin. Donc, faut que je sollicite un peu des gens, essayer de me faire un réseau, etc. Mais voilà, en tout cas, je vais tendre vers ça et essayer de mener à bien ce projet, ouais.
Et tu sais à peu près le type de réalisation ou le type de thématique de réalisation sur lesquelles tu aurais envie de travailler ?
Ouais, moi c'est toujours de l'introspection. J'adore tout ce qui est développement personnel, introspection et tout ça. Donc ce serait surtout sur des thèmes liés à l'humain, quoi. Je sais pas, quelqu'un qui a pas confiance en soi, comment il va. J'avais commencé à écrire un long métrage, là j'avais fait un livre qui s'appelait écrire un film en 21 jours et qui était une expérience super, franchement meilleure expérience d'écriture de ma vie. Et la thématique, c'était quelqu'un qui est dans le jugement en permanence. C'était un artiste qui était dans le jugement en permanence, qui passait son temps à critiquer les autres. Et il va dans le métro et puis il rencontre un mec qui fait de la guitare dans le métro, et en mode c'est qui ce mec qui vient nous faire chier avec sa guitare machin, et finalement il se lie d'amitié avec ce SDF qui joue de la guitare, et on suit leur amitié, et le mec c'est une grande leçon de vie, quoi. Il lui apprend que en fait, en jugeant les autres, il se juge lui-même et il se met la pression à lui-même, en fait. C'est-à-dire que si t'arrêtes pas de dire mais c'est de la merde ça, et puis regarde lui ce qu'il fait, c'est de la merde, et toi quand tu dois te mettre à faire quelque chose, t'as intérêt à assurer, et cette pression elle est inconsciente mais elle est là, donc en fait tu fais plus rien et t'es dans l'immobilisme et le perfectionnisme qui sert à rien, quoi. Donc voilà, ça parlait de ça, un mec qui s'inscrivait à la Nouvelle Star et qui était coaché par un mec de la rue, quoi, qui jouait de la guitare, quoi. Donc voilà,
ça c'est marrant, c'est vrai. Tu vas pas faire comme on parlait tout à l'heure des cases et que les Français ont tendance à te mettre dans des cases.
Ouais.
Quand je t'entendais parler, j'ai pensé à Bong Joon-ho. Non, c'est le mec qui a fait le réalisateur de Parasite, le film Parasite. Tu l'as vu?
Ah oui.
Le réalisateur coréen.
Ouais, je saurais pas te dire son nom, mais ouais, j'ai adoré le film en tout cas.
Et c'est un mec qui, quand tu regardes ses films, tous ses films sont différents.
Ouais.
Il a fait un film qui s'appelle Snowpiercer.
Ah oui.
Qui est un film assez particulier.
C'est sûr que c'est lui qui a fait Snowpiercer.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Et il a fait aussi il a fait The Host. C'est un film d'horreur. Ou c'est pas lui qui a fait Le Train pour Busan. Je sais plus. Non, c'est pas celui-là.
Non, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui. Mais The Host, je crois que c'est lui en tout cas. Il a fait un autre film qui s'appelle Mother, qui est assez particulier. Parasite aussi. Et en fait, tu te rends compte que certes, il y a toujours la dimension un petit peu familiale, plus ou moins.
Ouais.
Mais
c'est ça que j'aime bien dans le milieu de réalisateur, c'est justement comme t'es un peu hors champ, on n'essaye pas forcément de te cataloguer, et tu peux vraiment explorer plein de domaines différents. C'est comme Danny Boyle, qui est l'un de mes réalisateurs préférés, il a des films complètement différents, quoi.
Ouais, mais en France, t'en as des références, toi, de types qui ont fait des trucs complètement différents, Luc Besson et encore.
Ouais, c'est, il y a toujours un fond de commun. Luc Besson, Clapiche, il est toujours un peu dans le même genre. Dupontel est toujours un peu dans le même genre. C'est vrai qu'en France, t'as vu, on veut te mettre dans une case. Philippe Lachaud qui fait les comédies là, un peu à l'américaine. Pareil. Lecomte, il a fait pareil. Non, c'est vrai, mais bon, il faut un début à tout. Hein. Tu vois, Lachaud, Philippe Lachaud,
ouais,
là.
Bien sûr,
ouais. Voilà, il a amené la comédie un peu, la comédie un peu US. Hein. C'est clairement les comédies américaines un peu potaches qu'il a adapté pour la France. Et avant, peut-être les gens lui auraient dit, ben non, attends, nous, c'est pas la comédie comme ça qu'on aime en France. Puis finalement, il a réussi à le faire. Donc, Donc je pense qu'il faut pas se limiter. Et d'ailleurs, Parasite, tiens, 4 Oscars, le truc, c'est à moitié un film social, familial, d'horreur, huis clos, suspect. Enfin, ça englobe pas mal de trucs. Donc, je pense que de toute façon, faut pas essayer de faire une recette, hein, parce que là, s'il y avait un mec qui avait des recettes sur Serre, il serait millionnaire, quoi,
ouais.
Dans l'artistique.
Mmh. T'aurais un mot de la fin?
Mot de la fin. J'avais envie de parler. Tout à l'heure, ça rejoignait un peu ce qu'on disait sur le fait de faire. Hein. J'aime bien une citation de Spielberg. Tu vois, on pourrait se dire que Spielberg, c'est le mec le plus perfectionniste de la Terre. Et en fait, il disait la chose suivante. Il disait, pour réaliser un effet spécial, il lui faut, disons, allez, 100% du temps. Enfin, 100% du temps pour réaliser un effet spécial. 50% du temps te permet de faire 80% de l'effet. D'accord ? Tu l'as fait à peu près à 80%. Et les 50% de temps suivants, tu passes autant de temps à faire les finitions, c'est-à-dire les 20 derniers pourcents. Et ben, ces 20 derniers pourcents, le public ne le voit pas. Donc, il dit, pourquoi Spielberg a passé plus de temps, deux fois plus de temps à fignoler l'effet spécial alors que le public va pas voir la différence. Donc, faites que la moitié de l'effort, en fait. Et c'est étonnant d'un mec comme Spielberg qui a révolutionné le cinéma et surtout les effets spéciaux. Et ben ça, je me l'applique à moi-même. Et j'essaie de pas trop peaufiner mes trucs et de faire le perfectionniste à voilà. Maintenant mes vidéos, mes trucs, mes créations, je sais qu'il y a des petits trucs où j'aurais envie de continuer à peaufiner, mais je le fais pas parce que ça va prendre trop de temps et au final personne va le voir. Et comme moi, je réécoute pas non plus mes créations, et ben je laisse comme ça et je suis bien plus heureux. Donc voilà, ça serait cette anecdote là.
Où est-ce qu'on te retrouve ?
Eh bien, Alex Putefin sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et sur ma chaîne YouTube, surtout si vous voulez voir des choses. Sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est le plus intéressant.
Et les prochaines dates, t'as les prochaines dates là de spectacle ?
Bah là, je suis sur un spectacle d'impro qui s'appelle Envie, j'en parlais tout à l'heure, où je suis mes envies, c'est complètement improvisé, c'est complètement spontané, ça fait participer le public. Donc à l'improvibar, là, voilà, regardez les dates sur Billets Réduc. Ouais, à Paris. Voilà.
Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ciao. C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» le podcast des multipotentiels touche-à-tout et slasheurs présenté par Jordan. Si vous aimez le podcast, vous allez aimer notre guide d'exploration. Disponible tout de suite sur notre site trouvezsavoie.fr/exploration. Ce guide, accessible en téléchargement, est votre boussole interne pour partir en exploration de vos intérêts, pour mieux vous orienter, vous organiser et vivre pleinement votre multipotentialité. Vous apprendrez à mieux exploiter votre potentiel, à mieux vous connaître et explorer votre fonctionnement. On vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur trouvezsavoie.fr/exploration pour avoir toutes les informations. À bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»